Dans l'Antiquité, les fours électriques n'existaient pas. Les gens font un grand feu avec du bois, puis mettent des grosses pierres à l'intérieur du foyer. Une fois devenues brûlantes, on les pousse sur les bords du feu et on place sur elles les aliments à cuire. Cette façon de faire est mentionnée dans l'Ancien Testament. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre d'Osée. Éphraïm se confond avec les autres peuples. Éphraïm est pareil à la galette qu'on n'a pas retournée. Le prophète compare Israël Nord à une galette qu'on a laissée brûler d'un côté, tandis que de l'autre, la pâte est encore crue. Cette image signifie que le royaume des 10 tribus n'est ni entièrement le peuple de Dieu, ni une nation purement païenne, puisqu'il reste quand même des vestiges de la loi de Moïse en son sein, et même quelques Israélites qui, au lieu d'adorer les idoles, invoquent encore le nom de l'Éternel. Précédemment, Osée a évoqué l'anarchie qui règne au niveau politique et religieux dans le royaume des 10 tribus. Maintenant, il lui reproche son alliance avec des nations étrangères. On sait que, ayant dû faire face à une révolte, le roi Menahem demande l'aide du roi assyrien Tiglath-Pileser III, qui arrive et envahit le territoire israélite à l'est du Jourdain. La Syrie soutient Menahem, mais en échange de 34 tonnes d'argent. Plus tard, Pekah, roi d'Israël Nord, forme une coalition avec Retsin, roi de Syrie, pour résister aux Assyriens. Ensemble, ils attaquent même Juda, sans toutefois pouvoir conquérir Jérusalem. Je continue le texte. Des gens venus d'ailleurs ont épuisé sa force sans qu'ils s'en aperçoivent. Déjà, les cheveux blancs lui garnissent la tête sans qu'ils s'en aperçoivent. Israël Nord est comme un homme qui vieillit avant l'âge, mais ne s'en aperçoit pas. Pour commencer, l'adoration des idoles détruit la fibre spirituelle et morale de la nation. Ensuite, le royaume israélite des 10 tribus du Nord est obligé de verser de grosses sommes d'argent à des puissances étrangères, à l'Égypte, mais surtout aux Assyriens, en échange de leur soutien pour avoir la paix. Mais cette stratégie draine ses ressources et sape son dynamisme économique. Cependant, le roi et ses grands ne se rendent pas compte qu'ils suivent une politique désastreuse qui entraîne le déclin de la nation. Je continue. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Malgré tous ses malheurs, eux, ils ne sont pas revenus à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne se sont pas tournés vers lui. C'est par orgueil que les dirigeants du pays refusent de s'humilier devant l'Éternel et de revenir à lui. Ils auraient pu demander son aide au lieu de payer des tributs. Mais non, par pure arrogance, ils s'obstinent à poursuivre une voie sans issue. Je continue. Éphraïm est semblable à un pigeon naïf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide, il va en Assyrie. Un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies, écrit Jacques, même chose pour une nation. Israël Nord roucoule en Égypte tout en se trémoussant avec la Syrie. Osée décrit la politique étrangère d'Israël qui oscille entre l'Égypte et la Syrie, tantôt l'un, tantôt l'autre. Cette dépendance des puissances étrangères est un signe de panique parce que la nation a abandonné son Dieu. Comme je l'ai déjà dit, sous le règne du roi Menahem, Israël Nord devient vassal de la Syrie. Plus tard, le roi Pekah se joint aux Syriens contre les Assyriens, ce qui n'empêche pas qu'une partie d'Israël Nord soit envahie et une charrette d'Israélites déportée en Assyrie. Osée, le dernier roi d'Israël Nord, s'empare du pouvoir aidé par la Syrie. Mais une fois roi, il fait marche arrière, arrête de verser le tribut aux Assyriens et tente de s'allier avec l'Égypte, ce qui entraîne la destruction d'Israël Nord. Je continue. Mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui et je le fais tomber comme un oiseau. Je les châtirai, comme ils ont été avertis dans leur assemblée. Israël est à la recherche d'alliances à droite et à gauche, mais il sera châtié par Dieu et finira comme un pigeon pris dans le filet de l'oiseau l'or. Après 3 années de siège, Samarie, la capitale du royaume des 10 tribus, tombe aux mains des Assyriens. Une fin conforme aux menaces que les prophètes ont proférées, mais dont les Israélites n'ont tenu aucun compte. Je continue. Malheur à eux, car ils m'ont fui. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Moi, je les délivrerai bien, mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. Le prophète Osée a déjà fustigé Israël Nord parce qu'il y règne l'anarchie politique et religieuse, et à cause de ces jeux d'alliances désastreuses avec des nations étrangères. Maintenant, il accuse les Israélites d'avoir abandonné l'Éternel. C'est en fait la pire des fautes, et pour cette raison, ce paragraphe commence sur une note sinistre qui annonce un malheur imminent. Non seulement les Israélites ont déserté l'Éternel, mais ce sont aussi des traîtres qui sont passés à l'ennemi dans le sens qu'ils offrent un culte aux idoles. Pourtant, Dieu voudrait délivrer son peuple de la menace assyrienne, comme il l'a déjà préservé d'invasions étrangères dans le passé. Mais il ne peut intervenir à cause de leur incrédulité et des propos outrageux qu'ils tiennent à son égard, quand ils disent que l'Éternel n'a pas la capacité de les sauver, et qu'il vaut donc mieux chercher de l'aide auprès de l'Égypte. Je continue. Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Quand ils se font des incisions pour du blé et du vin de moi, ils se détournent. Les préoccupations essentielles des Israélites est de rechercher l'abondance matérielle. On serait tenté de leur jeter la pierre, mais il faut savoir que leur situation est précaire. Ils vivent sur le fil du rasoir, en quelque sorte, parce que sans pluie, il n'y a pas de récolte, et donc pas de pain. L'Éternel a promis à son peuple que s'il l'invoque et lui obéit, il aura de la nourriture à satiété. Mais quand le ciel est d'airain, au lieu d'invoquer Dieu et de se soumettre à lui, les Israélites se lamentent et courent consulter leur fausse divinité. Baal, en particulier, le dieu de l'orage et de la fécondité. Les prêtres, à son service, se font des incisions pour réveiller l'idole afin qu'elle se bouge et fasse pleuvoir, car c'est justement pour ça qu'on la vénère. Se taillader ainsi est une extravagance rituelle qui est également un signe de deuil ou de profonde détresse. Ces pratiques sont évidemment interdites par la loi de Moïse. Je continue. Moi, je les instruisais, je fortifiais leurs bras, mais ils méditent le mal contre moi. Je fortifiais leurs bras. Fait référence à Dieu qui donne la victoire militaire. Or, le roi Jéroboam II, bien qu'idolâtre jusqu'au bout des ongles, s'est lancé dans plusieurs guerres contre ses voisins et a triomphé. Mais au lieu de reconnaître la main de l'Éternel, les Israélites l'ont abandonné, et en plus, ils lui sont fortement hostiles, ce qui est le comble de l'ingratitude. L'expression « Il médite le mal contre moi » est très violente. Elle est utilisée dans le livre de la Genèse quand Joseph dit à ses frères « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » Je finis de lire le chapitre 7. Ils se tournent, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc faussé. Aussi leurs chefs tomberont par l'épée à cause de leurs propos arrogants. Et l'on rira d'eux en Égypte. Un arc fauché ne permet évidemment pas de viser juste. Cette image décrit la démarche du royaume des 10 tribus qui fait fausse route. Au lieu d'invoquer l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, les Israélites se tournent partout ailleurs. D'une part, vers les idoles, et d'autre part, ils essayent de forger des alliances à droite et à gauche, mais rien ne leur réussit, car la délivrance ne vient pas des hommes, mais de l'Éternel. Précédemment, le prophète a dit que l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Maintenant, il qualifie ses chefs de arrogants, sans doute parce qu'ils rejettent sur Dieu la responsabilité de leur malheur. Cette insolence leur vaudra d'être tués lorsque les Assyriens feront le siège de Samarie. Pendant ce temps, dans les coulisses du palais du Pharaon, on se moque d'Israël, mais rira bien qui rira le dernier. En effet, le prophète Ézéchiel prononce cet oracle de jugement contre l'Égypte parce qu'elle n'a pas été un allié sur lequel Juda a pu s'appuyer. Nous arrivons au chapitre 8, qui fait encore partie du premier cycle d'oracles de condamnation formelle du royaume d'Israël Nord. Ce chapitre contient plusieurs illustrations de la rébellion du peuple de Dieu et annonce spécifiquement la venue du jugement. Alors qu'il contemple la vision que Dieu lui donne, Osée est profondément ébranlé, ce qui se ressent dans son style qui, en hébreu, est très saccadé, et dans ses phrases qui ne sont pas toujours complètement formées. On le comprend, car il parle sous le coup de l'émotion. Je commence de lire le chapitre 8. Embouche donc le corps, c'est comme un aigle sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance et ils ont transgressé ma loi. Comme l'aigle qui plane avant de fondre sur sa proie, Osée voit le jugement prêt à fondre sur le territoire d'Israël Nord. Il demande à une sentinelle virtuelle de sonner l'alarme, car il aperçoit déjà l'ennemi. Les armées assyriennes sont en route. Cette invasion correspond à l'une des malédictions prévues par la loi de Moïse en cas de rébellion du peuple de Dieu. Le vocabulaire de ce passage montre que l'Éternel traite Israël comme son vassal, car après lui avoir intenté un procès, il lui annonce le châtiment. Dieu ne prend pas son peuple par surprise, car il l'a averti plusieurs fois que s'il transgressait le traité d'alliance, il serait chassé de son pays. Moïse a bien dit à Israël que s'il obéissait à la loi, il serait béni, mais s'il se révoltait, il serait sévèrement jugé. Cependant, et contrairement à l'alliance de la loi, les promesses que l'Éternel a faites à David et Abraham tiennent toujours, car aucune condition ne leur est attachée. Il s'ensuit qu'un jour, Israël reviendra définitivement dans son pays et n'en sera jamais plus chassé. Mais entre-temps, Israël est sous le régime de la loi qui est une alliance conditionnelle. L'ayant violé, le royaume du Nord, puis Juda, subiront les sanctions prévues, dont l'exil. Je continue. Ils crient vers moi, « Ô toi, notre Dieu, nous te connaissons !» Mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Une fois encore, le peuple se fait de douces illusions. Il prétend connaître l'Éternel, mais c'est un faux semblant destiné à gagner ses faveurs face à la menace assyrienne. En réalité, par son comportement coupable, Israël a rejeté ce qui est bien, c'est-à-dire les exigences morales et spirituelles de la loi de Moïse. Je continue. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs, sans mon approbation. Il a utilisé son or et son argent pour se fabriquer des idoles qui leur seront ôtées. Plusieurs fautes spécifiques sont mentionnées. D'abord, Israël Nord s'est séparé de Juda et de la lignée de David, qui est la seule légitime. Ensuite, les rois qu'Israël Nord se donne prennent le pouvoir au moyen de conspiration et d'assassinat. C'est la loi de la jungle qui prévaut, et le changement de dynastie se font à coups de flingue dans un bain de sang. Troisièmement, avec l'or et l'argent que Dieu leur a donné, les Israélites se sont fabriqués des idoles et surtout les veaux d'or. Non seulement ils font une grosse entorse à la loi de Moïse, mais il est stupide d'exposer du métal précieux à la vue de tout le monde, car il va forcément faire des envieux. Et c'est ce qui est arrivé puisque les Assyriens sont venus piller les richesses d'Israël Nord. Je continue. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Jéroboam Ier avait installé deux veaux d'or en Israël Nord. L'un tout au nord dans la ville de Dan, et l'autre au sud de Bethel, à la frontière de Juda. Samarie représente ici Israël Nord. Et le veau dont parle Osée est celui de Bethel, car c'est lui qui attire le plus de monde. Je continue. Car ton veau, il vient d'Israël. Un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu. Il sera mis en pièces, le veau de Samarie. Ce veau d'or fabriqué, main, est un vulgaire morceau de bois plaqué or. Il n'a rien de divin, et pourtant, le roi Jéroboam Ier a dit au peuple, « Voici votre Dieu Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il me semble qu'en entendant une telle stupidité, les Israélites auraient dû se rouler par terre de rire, mais non, ils ont avalé le bobard tout rond. La crédulité des Israélites est épouvantable. En tout cas, les archéologues n'ont jamais retrouvé la moindre trace de la bête parce qu'il est quasi certain que les Assyriens l'ont emporté et fondu pour récupérer l'or. Je continue. Ils ont semé le vent, ils moissonnent la tempête. Blé sans épi ne produira pas de farine. Et même s'il en produisait, ce serait des étrangers qui le dévoreraient. Ils ont semé le vent, correspond à la futilité des idoles ainsi que des alliances avec les nations étrangères. La conséquence de ces choix catastrophiques est la tempête, c'est-à-dire la venue des armées assyriennes qui ravageront Israël Nord. Le blé sans épi décrit le rendement quasi nul des cultures agricoles et même le peu qu'elles produiront sera pillé par les Assyriens. Je continue. Oui, Israël a été dévoré. Le voici désormais au milieu des nations comme un objet indésirable. Le prophète parle au passé parce que le processus du jugement est enclenché et plus rien ne peut l'empêcher d'aboutir. Le tribut qu'Israël Nord doit verser aux Assyriens consomme ses ressources et ce n'est qu'un début, car bientôt la nation entière sera détruite et ses habitants dispersés parmi les païens où ils seront considérés comme un objet indésirable, littéralement comme un pot dont personne ne veut. C'est pas très flatteur. Je continue. Car lui, Israël, il est allé s'adresser à Assur. Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amants. Le prophète assimile le royaume des 10 tribus à une variété d'âne sauvage qui est solitaire et qu'on trouve dans les endroits inhabités. La comparaison est intéressante parce qu'il a effectivement un désert qui sépare Israël aussi bien de l'Égypte que de la Syrie. Têtu comme une mule et fier comme un coq sur son fumier, Israël, épouse de l'Éternel, refuse de se soumettre à lui. Mais par contre, le peuple s'est abaissé à chercher des amants qui sont tantôt les Assyriens, tantôt les Égyptiens, et qu'il doit payer au prix fort, et finalement, pour sa propre perte. Comme je l'ai déjà dit, les Écritures rapportent que Menahem, roi d'Israël Nord, acheta l'appui des Assyriens avec 34 tonnes d'argent. Mais en plus, cette action inique leur ouvrit toute grande la porte de la Palestine. Je continue. Mais ils auront beau faire des présents aux nations, je vais les rassembler et ils dépériront très bientôt sous le joug du roi des princes. Le prophète annonce la fin du royaume des 10 tribus. Le roi des princes est l'empereur assyrien Tiglath-Pileser III. Menahem n'est pas le seul qui a dû verser un tribut aux Assyriens. Osée, le dernier roi d'Israël Nord, est lui aussi tributaire de l'empereur d'Assyrie. Je continue. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. L'autel est l'endroit où l'homme offre un culte au Dieu unique et vrai. Même aujourd'hui, les croyants ont un autel, mais il est dans les cieux et assimilé au trône de Dieu, qui est aussi la source de la grâce. Israël possède un seul autel légitime et se trouve dans le parvis du temple de Jérusalem. Tous les autels qui parsèment Israël Nord sont donc une expression de la rébellion du peuple, surtout qu'ils servent aussi bien à adorer l'Éternel que les idoles, car pour les Israélites, c'est du pareil au même. Et quand ils offrent un sacrifice pour leurs péchés, comme ils n'obéissent pas à la loi, ils agissent en hypocrite parce que leur cœur n'est pas droit. En fait, ils accomplissent un rite religieux, un peu comme quand on s'adonne à des pratiques religieuses ou occultes afin d'obtenir les faveurs d'un dieu ou d'un démon, peu importe. La multiplication des autels ne fait donc que perpétuer les offenses à l'Éternel. Je continue. Et si j'écris pour Éphraïm 1000 exemplaires de ma loi, il la considérera pour une chose étrangère. Il est inutile de mettre la loi dans chaque foyer, car de toute façon, les Israélites n'en font qu'à leur tête. Je continue. Les victimes qu'on offre, eux, ils les sacrifient pour manger la viande. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il fera le compte de leurs fautes et il les châtiera pour leurs iniquités. Ils retourneront en Égypte. Ils retourneront en Égypte décrit un état de servitude, des conditions d'avilissement et d'oppression. Selon la loi de Moïse, une partie de la viande des sacrifices revient aux prêtres et parfois même aux adorateurs. Même si ces offrandes ont une apparence religieuse, leur vrai but est de créer une occasion de faire la fête, probablement en compagnie des prostituées sacrées. De tels sacrifices insultent Dieu qui va punir Israël en le déportant en Assyrie. Je finis de lire le chapitre 8. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes, mais j'y mettrai le feu qui consumera leur palais. Je mettrai le feu est un refrain qui revient souvent chez le prophète Amos. Israël Nord, mais également Juda, a rejeté l'Éternel et les deux royaumes sont devenus matérialistes. Ils ont construit des palais et ont fortifié leurs villes, mais en vain. On sait que le roi assyrien Sennachérib détruisit bon nombre des villes fortifiées de Juda. On peut se moquer de Dieu tant qu'on veut, mais le temps travaille toujours pour lui. Et il a déjà pris rendez-vous avec chacun d'entre nous.